Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Protégez-vous, Caribou et Québec Oiseau. Au programme, comment décaisser votre épargne à la retraite. Les routes gourmandes du Québec en vrac. Et le mésanger du Canada. Bonne écoute.
Comment décaisser votre épargne à la retraite? Par Mathilde Roy, 30 mai 2023, tiré de la revue Protégez-vous. Ça y est, après avoir épargné toute votre vie, vous voilà à la retraite. Mais attention, la manière dont vous décaisserez vos actifs pourrait avoir des répercussions sur votre niveau de vie, qu'il s'agisse de REER, de FER, de CELI ou d'autres montants. Les conseils de deux planificateurs financiers. Une fois à la retraite, devriez-vous d'abord retirer les avoirs de vos REER et ou CELI? À quel âge demander vos rentes du gouvernement? Comment gérer les risques d'inflation et les soubresauts du marché? À toutes ces questions, le planificateur financier indépendant André Lacasse commence sa réponse par « Ce n'est pas noir ou blanc ». Un grand nombre de variables sont à prendre en compte dans l'analyse du décaissement de votre épargne à la retraite. Chaque cas est donc unique. Des pistes gagnent moins à être suivies et certaines pratiques sont carrément à éviter. La plus grande erreur que commettent les nouveaux retraités, le manque de planification selon Nathalie Bachand, présidente d'Éduc Épargne. Un sondage de l'organisme publié en 2020 révélait que 73 % des Québécois ne pensent pas planifier la façon dont ils utiliseront leur bas de laine avant d'être effectivement à la retraite. Les gens s'en préoccupent néanmoins de plus en plus, constate-t-elle, même s'ils sont encore nombreux à attendre à la dernière minute et à faire avec ce qu'ils ont. Pourtant, chacune des décisions que vous prendrez pendant cette grande étape, est susceptible d'avoir des conséquences majeures, voire irréversibles, sur vos revenus futurs. Vous pourriez par exemple demander votre rente trop tôt ou encore perdre des crédits d'impôt. Pour vous aider à dormir sur vos deux oreilles, les experts insistent sur l'importance d'établir un plan de décaissement et d'adopter toutes les stratégies fiscales qui pourraient vous avantager. Bâtir un plan de décaissement. La première étape consiste à définir vos objectifs de retraite et le style de vie que vous désirez, puis d'inventorier vos sources de revenus. Celles-ci incluent les prestations des régimes publics, soit le régime des rentes du Québec, RRQ, et la pension de la sécurité de vieillesse, SEV, au fédéral, l'épargne personnelle que vous aurez accumulée et les régimes de retraite offerts par l'employeur lorsqu'ils s'appliquent. Retraite Québec estime que vous aurez besoin d'environ 70 % de vos revenus annuels bruts de travail pour maintenir votre niveau de vie, puisque vos dépenses seront généralement moins élevées une fois à la retraite, la maison est payée, vous vous déplacez peut-être moins en transport, etc., etc. André Lacasse y va tout de même de nuances. Tout dépend de vos projets. Et si vous êtes de type dépensier, parfois les retraités ont en effet besoin de plus d'argent que lorsqu'ils travaillaient. Une personne qui va en Floride tous les ans et une autre qui reste au Québec n'auront pas besoin des mêmes revenus, illustre le planificateur financier. Robert, bien que ce témoignage soit réel, le prénom utilisé est fictif pour préserver l'anonymat de la personne, 65 ans, est à la retraite depuis maintenant 4 ans et ne compte pas se priver pendant que la santé est encore au rendez-vous. Entre 60 et 75 ans, lorsqu'on est en santé et bien entendu, en situation d'en profiter, c'est le temps de voyager le plus possible et de dépenser ses billes de façon responsable, juge-t-il. Avec son épouse, aussi retraitée, il se paie 2 voyages par année. Il faut dire qu'il n'a pas attendu à la dernière minute pour ramasser du blé pour ses vieux jours. Toute sa vie, il a épargné assidûment. Pour financer son train de vie, Robert reçoit depuis 1 an sa rente de retraite du RRQ et comble manque à gagner en pigeant dans ses REER. Pour ce qui est des CELI, je les conserve comme un bas de secours parce qu'il s'agit d'argent qui fructifie à l'abri de l'impôt, dit-il. Sur les conseils de son planificateur financier, le retraité compte demander la pension de la SRU plus tard à 67 ans. Régime de retraite publique, attendre ou non? C'est l'un des grands défis. Déterminez l'âge auquel vous recevrez vos rentes publiques. Vous pouvez commencer à percevoir celle du RRQ à partir de 60 ans et la pension de la Sécurité de la vieillesse à partir de 65 ans. Néanmoins, plus vous les retardez, plus les montants obtenus grimpent. Dans beaucoup de situations, reporter le versement des rentes le plus tard possible est l'option à privilégier, parce que cela permet un revenu bonifié, payable le restant de vos jours, explique Nathalie Bachan. Concrètement, une personne qui aurait droit à une rente de RRQ de 10 000 à 60 ans profiterait d'une augmentation à vie de 2 248 $ par année si elle la demandait plus tôt à 62 ans, selon les simulations de Retraite Québec. En repoussant sa demande à 70 ans, elle pourrait même plus que doubler la valeur de sa rente. Afin d'inciter les Québécois à rester plus longtemps sur le marché du travail, le gouvernement fera passer l'âge maximal pour réclamer la rente du RRQ de 70 à 72 ans à partir du 1er janvier 2024. Ces 2 années supplémentaires entraînent une hausse à vie de la rente annuelle pouvant atteindre 2 634 $. De l'avis d'André Lacasse, retarder l'âge du versement de vos rentes est l'une des meilleures protections contre l'inflation et ce que les planificateurs financiers appellent le risque de longévité. Cela signifie que, si vous vivez vieux, il est possible que vous épuisiez votre épargne alors que les rentes, elles, sont versées à vie, en plus d'être indexées chaque année. Les gens oublient que ça coûte cher de vivre jusqu'à 100 ans, lance le planificateur financier. Il concède toutefois qu'il peut être dangereux de prendre la rente du RRQ très tôt dans certaines situations, par exemple pour une personne dont l'espérance de vie est réduite par des problèmes de santé. Attention à l'ordre des retraits. Au moment du retrait, le CELI ne sera pas imposable, mais le REER le sera au même titre qu'un salaire. Alors, dans quel ordre décaisser vos actifs? C'est l'autre grand point d'interrogation. Et une fois de plus, les experts martèlent qu'il n'existe pas de recette universelle. Cela dit, André Lacasse signale que décaisser certains montants de vos REER de façon progressive et anticipée s'avère souvent une stratégie gagnante. Vous pouvez ainsi niveler votre revenu imposable dans le temps et profiter de paliers d'imposition plus bas. Même son de cloche du côté de Nathalie Bachan. Celle qui est aussi planificatrice financière spécialisée en retraite donne l'exemple d'une personne seule qui détiendrait 500 000 $ dans des placements non enregistrés dont les retraits ne sont pas imposables et 500 000 $ dans les REER dont les retraits sont imposables. Elle pourrait penser que sortir son capital non enregistré les premières années lui permettrait de ne pas payer d'impôts, mais ce n'est pas une bonne solution. Parce qu'elle se prive des premiers taux d'imposition qui sont plus faibles, ce sera plus avantageux de prévoir une combinaison des 2 types d'actifs. Quand les REER deviennent des FER, les REER que vous n'aurez pas retirés avant 71 ans seront convertis en fonds enregistrés de revenus de retraite FER. Il vous faudra alors obligatoirement en retirer une portion minimale chaque année sur laquelle vous devrez payer de l'impôt. Or, soyez diligent dans vos projections, comme le conseille André Lacasse, car si vous attendez à 71 ans pour commencer vos retraits, il se peut que vos revenus soient trop élevés pour avoir droit à certains crédits d'impôt, comme le montant, en raison de l'âge, admissible aux personnes de 65 ans et plus. Le revenu annuel familial net, à partir duquel ce crédit ne sera plus disponible, s'élève en 2023 à environ 58 219 $ au provincial et à 98 305 au fédéral. Il en va de même pour la pension de l'ASV versée par le gouvernement fédéral. À partir d'un certain seuil, 86 912 en 2023, il y a un impôt de récupération à payer sur cette prestation. Soyez accompagnés. Comme vous pouvez le constater, cet exercice peut rapidement devenir un véritable casse-tête. C'est pourquoi il est conseillé d'être accompagné par un planificateur financier qui utilise des logiciels de simulation précis. Des outils en ligne accessibles au public comme SimulR et SimulRetraite, élaborés par Retraite Québec, vous donneront des indications sur les sommes que vous devrez épargner et sur les revenus auxquels vous aurez droit à la retraite. Mais vous n'aurez pas de stratégie de décaissement à l'intérieur de tout ça, précise Nathalie Bachand. Une affaire de couple. Si vous êtes en couple, vous gagnez à faire cette planification à deux, selon la présidente d'Éduc Épargne. Il y a des couples qui gèrent leurs affaires séparément toute leur vie, mais une fois à la retraite, ce n'est peut-être plus l'idéal, parce qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes actifs, estime-t-elle. Quand c'est le cas, une des stratégies les plus payantes est de fractionner les revenus de pension et de retraite. La chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke rapporte que, pour l'année d'imposition 2018, 240 355 couples ont utilisé cette stratégie fiscale. Le concept est simple. À compter de 65 ans, un particulier peut transférer jusqu'à 50 % de ses revenus admissibles à son époux ou son conjoint, de fait dans sa déclaration de revenus. Ainsi, si vous déclarez 100 000 $ de revenus et que votre douce moitié en gagne 20 000, votre taux marginal d'imposition sera plus élevé que le sien. Donc, en lui transférant une partie de vos revenus, vous paierez moins d'impôts. Avant 65 ans, une autre stratégie peut être avantageuse, soit celle qui consiste à cotiser au REER de son conjoint. Cette option permet à la personne au revenu le plus élevé du couple de profiter d'un généreux remboursement d'impôts. À la retraite, l'autre conjoint pourra retirer les sommes et ne payer que très peu d'impôts s'il s'agit de ses seuls revenus. Une telle mesure ne convient pas nécessairement à tout le monde, mais elle pourrait être exploitée avec votre planificateur financier. En cas de séparation, le sort des REER dépend totalement du statut de la relation, comme l'explique André Lacasse. Les REER d'un couple marié font partie du patrimoine familial et devront être partagés entre les époux divorcés. Pour les conjoints de fait, ça se complique, poursuit le planificateur financier. Seul le titulaire du REER est propriétaire des montants cotisés et des revenus au moment d'une séparation. Un contrat de vie commune qui précise le partage des biens et les modalités de séparation pourrait éviter les litiges. Quand planifier? L'épargne pour vos vieux jours doit débuter tôt dans la vie, il va sans dire. Aussitôt qu'un jeune couple démarre une famille ou achète une maison, ou même avant, il devrait commencer à planifier. On ne planifie pas les mêmes affaires, mais on planifie tranquillement jusqu'à ce que ça devienne une planification de retraite, souligne Nathalie Bachand, présidente d'Éduc Épargne. Le plan de décaissement de vos actifs à la retraite, dans lequel vous déterminerez notamment les montants à retirer et l'ordre dans lequel vous le ferez, peut se faire quelques années avant que vous ne quittiez le marché du travail. Ce plan doit être revu aux 2 ou 3 ans, ou si votre situation de vie change, d'après le planificateur financier André Lacasse.
Les routes gourmandes du Québec en vrac. Un texte de Sophie Médiavilla-Rivard, paru le 27 mai 2023 dans la revue Caribou. On entend souvent parler de routes gourmandes, mais que sont-elles exactement? Que visent-elles? Et combien peut-on en trouver à travers la province? Suivez le guide. C'est quoi les routes gourmandes? Selon l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec, le tourisme gourmand est la découverte, d'un territoire à travers des expériences culinaires distinctives, des activités agro-touristiques ou bio-alimentaires mettant en valeur le savoir-faire de ses artisans et permettant d'apprécier les produits ou les plats qui lui sont propres. Les routes gourmandes s'inscrivent dans cette démarche. Ce sont des itinéraires qui permettent de voyager d'un point à un autre en profitant à chacun des arrêts de saveurs locales. S'offrent alors aux visiteurs une multitude de produits et d'expériences. Alcool, fromage, activités agro-touristiques, auto-cueillettes, dégustations, produits inusités, repas, nuitées à la ferme et bien plus. Un code de la route gourmande? Au Québec, il n'y a ni réglementation pour régir les routes gourmandes, ni critères provinciaux à respecter pour en garantir la qualité. Certaines sont gérées par les offices de tourisme des municipalités et des régions qu'elles traversent, alors que d'autres sont indépendantes. Le concept est en évolution. Depuis 2022, l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec a entrepris un recensement pour bonifier, structurer et mettre en valeur l'expérience offerte par les routes et les circuits gourmands. L'association a aussi mis au point une démarche comportant des normes à respecter afin de garantir la qualité et l'homogénéité de l'expérience offerte aux voyageurs qui empruntent les circuits participants. 24, c'est le nombre de circuits gourmands importants que compte le Québec, d'après l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec. L'organisme gouvernemental précise toutefois que cette liste n'est pas exhaustive. Elle n'inclut pas les itinéraires promotionnels mis en place par les organismes touristiques pour mettre en valeur leur territoire. En vérité, on estime qu'il y a plus d'une quarantaine de routes gourmandes québécoises qui ont été mises sur pied localement, de façon indépendante ou qui ont bénéficié d'un appui provincial ou régional. 1995, c'est l'année de la création de la route des saveurs de Charlevoix, première en son genre au Québec. Ce circuit agro-touristique entre fleuves et montagnes contribue à la réputation gourmande du coin depuis bientôt 30 ans. Trajet désaltérant. De nombreuses routes gourmandes ont été conçues spécialement pour étancher la soif des voyageurs. La route des vins de Brome-Missisquoi, la route des bières de l'Est du Québec, la route des bières du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la route des brasseurs des cantons de l'Est, la route des distilleries du Québec, Alouette. 2020. La route des vins de Brome-Missisquoi célèbre en 2023 son 20e anniversaire. Fondé en 2003, ce parcours sillonne 22 vignobles de l'Estrie et propose 6 circuits pour les visiter en fonction des préférences personnelles des amateurs, été comme hiver. Manger en pédalant. Il n'y a pas qu'en voiture qu'on puisse explorer les régions pour découvrir de nouvelles saveurs québécoises. La Véloroute gourmande est un parcours de 235 km reliant Montréal et Sherbrooke, qui est jalonné de quelque 120 attraits gourmands. D'autres options? La Véloroute des Bleuets, qui fait le tour du lac Saint-Jean, propose un tour thématique des microbrasseries de cette région. Vélo Popote propose de pédaler d'un arrêt gourmand des Basses-Laurentides à un autre. Et Tourisme Lanaudière a concocté un savoureux itinéraire de 75 km à parcourir sur deux roues. 11. Selon l'Association de l'agrotourisme et de tourisme gourmand du Québec, les principaux circuits gourmands structurés au Québec sont dispersés dans 11 régions administratives. Le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie, le centre du Québec, la capitale nationale, la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, la Montérégie, l'Outaouais et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était « Les routes gourmandes du Québec en vrac », un texte de Sophie Midiavilla-Rivard paru le 27 mai 2023 dans la revue Caribou.
Le mésanger du Canada, un passereau qui ne craint pas le froid. Un texte de Philippe Blain, paru dans l'édition Hiver 2023 de la revue Québec Oiseau. Occupant la forêt boréale tout au long de l'année et faisant fi de la rigueur des hivers, le mésanger du Canada est assurément l'un des oiseaux les plus emblématiques de ce territoire. Dans l'immensité de la Grande Peyssière, sous le soleil blafard de janvier, il n'est guère de bruit ni de mouvement qui viennent troubler le repos de la nature endormie sous l'épais manteau de neige. Pour accompagner le trappeur dans sa solitude, il y a pourtant, fidèle, ce sympathique oiseau gris, goguenard et espiègle qui le regarde avec intérêt, les plumes gonflées pour se protéger du froid. Hôte jadis des camps de bûcherons et compagnons des errances autochtones au pays des grands froids, le mésanger du Canada habite à longueur d'année toute l'étendue de la forêt boréale canadienne, depuis les confins de l'Alaska jusqu'aux côtes du Labrador. Remarquablement fidèle au terroir qu'il a vu naître, il s'en éloigne rarement, même en hiver. Des campagnes répétées de bagages ont révélé que, même jusqu'à 9 ans après avoir été originellement bagué, plus de 90% des oiseaux recapturés étaient toujours dans la même région. Chez cette espèce, les couples sont établis en permanence et défendent leur territoire toute l'année. En juin, les jeunes partiront établir le leur et fonder une famille un peu plus loin. Il n'y a donc pas de migration chez le mésanger. Tout au plus, au début de l'automne, on remarque quelques déplacements d'individus, comme le long de la côte nord du golfe du Saint-Laurent et sur la rive nord du lac Supérieur. Par le passé, de rares invasions de ces oiseaux ont eu lieu loin au sud de l'aire de nidification, mais le phénomène a beaucoup diminué. Alimentation. Plus encore que les autres corvidés, le mésanger est un omnivore opportuniste. Immobile au haut de son perchoir, tel le corbeau de la fable, et amateur comme lui de fromage, il guette l'apparition de tout ce qui peut lui être comestible, en particulier des aliments que les humains négligent de protéger. Morceaux de pain, restes de viande ou de poisson, fruits divers. Il découvre, ainsi avec délice, des plats que ses parents ne lui ont jamais servis et auxquels il n'était nullement habitué. Parfois, il lui arrive de soulager les orignaux de leur tique en venant les glaner sur leur dos, imitant ainsi les piques-boeufs d'Afrique. À la belle saison, tout comme le jais bleu, le mésanger s'attaque au nid des passereaux et dévore quantité d'œufs et d'oisillons, au point d'être un sérieux prédateur de l'avifaune boréale. C'est également un amateur de charogne qu'attire les dépouilles de mammifères tués par les loups ou par les chasseurs. En compétition avec le grand corbeau sur les carcasses d'animaux morts, il s'enfuit rapidement avec une pièce de viande parfois assez lourde qu'il saisit et transporte dans ses pattes, comportement plutôt inusité chez un passereau. Il pourra ainsi se nourrir sans être importuné, seul et tranquille au sommet d'un arbre. Enfin, le mésanger complète son menu avec de gros insectes qu'il capture parfois en vol, des champignons parfois hallucinogènes comme la manite, et des fruits charnus de plantes qui poussent au sol, en particulier le bleuet et le fruit du maillanthème du Canada. À partir de la fin de l'été, le mésanger commence à faire des réserves de nourriture qu'il ira récupérer en hiver. Il s'agit souvent de fruits et de champignons, parfois d'insectes, denrées qui se conservent bien au froid et qui combleront ses besoins en période de disette hivernale, quand les autres sources de nourriture se feront rares. En gluant les aliments de sa salive épaisse, il les insère au creux d'un tronc ou à l'aisselle d'une branche et les recouvre parfois d'un morceau d'écorce pour mieux les cacher. L'hiver venu, pour retrouver les cachettes qu'il disperse presque à l'infini, il devra faire appel à une mémoire et à un sens de l'orientation remarquable. Par ses comportements alimentaires, le mésanger du Canada témoigne à sa façon de l'intelligence et des qualités d'adaptation exceptionnelles de la famille des corvidés, qui compte dans ses rangs le corbeau calédonien, célèbre pour sa confection et son utilisation d'outils pour l'aider dans son alimentation. Nidification. Le mésanger du Canada niche remarquablement tôt, vers la fin de l'hiver, quand la nourriture est rare, que l'enneigement est souvent maximal et que les lacs sont encore gelés. Les deux parents construisent le nid à l'abri dans un conifère et la femelle le couve seule pendant les 18 jours que réclame l'incubation. Elle doit donc protéger ses œufs par tous les temps, même quand le mercure descend à moins 30 degrés Celsius. À l'arrivée des premiers migrateurs au printemps, les petits sont déjà bien développés. Épilogue. Le réchauffement climatique pose certes une menace aux mésangers du Canada, mais encore plus à son discret cousin asiatique, le mésanger du Sichuan, dont l'aire de distribution est restreinte à un seul massif montagneux. Heureusement, l'immensité de la taïga canadienne permettra encore longtemps d'accueillir notre espèce, dont Claude Mélenchon disait qu'elle est « le lutin ailé de la sombre forêt boréale qui descend, comme en parachute, du haut d'un épicéa jusqu'à l'entrée d'une tente ». C'était « Le mésanger du Canada, un passereau qui ne craint pas le froid », un texte de Philippe Blin, paru dans l'édition hiver 2023 de la revue Québec Oiseau.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Serge Hamelin, Robert Chartier et Jocelyne Langevin à la lecture, André Lebeau et Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.